J'adore maman.
Elles sont mieux des papas
oui.
Ou des mamans en prison.
Solidarité avec les sans-papiers.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests, osseux, sont d'un autre âge. Il te dit merde, mon cartilage. Les tests,
osseux,
sont d'un
autre âge.
Il te dit
merde,
mon cartilage. Les tests,
osseux,
sont d'un
autre.
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute de RESF, hein, le réseau Éducation sans frontières sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, ou www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Cette émission sera diffusée mardi matin de 7h à 8h, hein, histoire de commencer la journée dans la bonne humeur, et sera rediffusée mardi matin de 7 à 8h. Et très bientôt téléchargeable sur le site du RESF, hein, resf.info/radio. Alors pour y aller, c'est très simple, hein, soit resf.info, vous vous baladez sur le site, hein, glanez des informations partout où vous pouvez en prendre, sans oublier de passer par la rubrique pétition et les signer, et vous trouverez la rubrique radio sur la colonne de gauche, un peu plus bas, ou alors vous pouvez faire directement resf.info/radio. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire, hein, pour nous dire tout le mal ou tout le bien que vous pensez de cette émission, nous demander des compléments d'information, nous en donner, nous demander d'aborder tel ou tel sujet, bref. Et donc ça, vous pouvez le faire soit par courrier, un courrier adressé à émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris, ou alors... Nous écrire par mail à resf.fpp@gmail.com. Et vous pouvez aussi, et c'est très important, nous envoyer un petit chèque, parce que la radio ne peut pas vivre, ne peut plus vivre sans ses auditeurs. Hein. Je rappelle que la radio, l'information, ça a un coût, que cette radio ne fait aucune publicité et que nos subventions sont un petit peu en baisse. Alors... au sommaire de cette émission, hein, sommaire susceptible d'être d'ailleurs modifié en cours d'émission, on retrouvera tout de suite Renaud Carpi qui va nous parler de l'expulsion de Cassie Garma, et donc, qui était avec nous il y a 2 semaines en direct du Mini-Lamelot. Puis on écoutera M. Fofana, gréviste et occupant du site Chronopost à Alfortville, joint ce matin par téléphone. Et il sera encore question de rétention avec l'intervention de la Chapelle Debout, hein, notamment de Oussam, lors de la réunion publique de l'OEE du lundi 15 avril 2019. Et on finira par un appel de Anne-Marie Desfous du RSF 75 qui nous donnera des nouvelles de Steve Gardorel Milandou, hein, qui est élève au lycée Bachelard et qui a été arrêté avant-hier au guichet à la préfecture alors qu'il venait y faire des démarches accompagné par sa maman. Et tout de suite, nous allons retrouver Renaud Carpi. Hein, allô Renaud ?
Oui, allô.
Oui, bonjour Renaud, comment vas-tu ?
Ça va. Donc, en fait, je viens pour donner quelques nouvelles de Cassie Garma, effectivement, qui a été malheureusement expulsée jeudi dernier.
Ouais.
Pardon.
Ouais.
Oui, donc, Cassie...
Si tu veux parler plus près de ton téléphone, parce qu'on ne t'entend pas très très bien.
Allô ?
Oui, voilà, là, c'est peut-être mieux.
Vous m'entendez, là ?
Oui.
Oui, moi je ne vous entends pas bien du tout par contre.
Ah. Voilà, donc on est en train de régler un petit peu le téléphone.
Oui, pardon, voilà, là je crois que je vous entends mieux.
Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux.
Oui, donc en fait, effectivement, quelques nouvelles de Cassie, qui a été Cassie Garma, parent d'élève du 14e arrondissement, qui a été malheureusement expulsée jeudi dernier. quelques jours avant, on avait quelques rumeurs sur le fait qu'il pourrait être expulsé au centre de rétention, au Mini-Amelot. Il y a un tableau qui précise les prochains vols, qui précise si les laissés-passer sont en règle ou pas. Et sur ce tableau, pour Cassie, il n'y avait strictement rien d'indiqué. Mmh. Donc, on ne s'attendait pas à une expulsion, même si on avait quelques rumeurs qui disaient que son expulsion était possible, qu'elle allait être délivrée. Mmh. Ni la CIMAN, ni nous n'avions cette information. Et bien moi, à 7h du matin, Cassie Garmin m'a appelé pour me dire que les policiers étaient là, mmh, et qu'ils allaient l'emmener à l'aéroport.
Mmh.
Et ensuite, il a été expulsé. Moi, je lui ai donné quelques conseils pour le vol. Il a été embarqué sur un vol au départ de Roissy pour Alger. Mmh. Un vol à 9h30 du matin. Donc Cassie, il a essayé de protester contre son expulsion. Il faut savoir que dans ce cas-là, les policiers ne laissent pas faire. Donc il y a eu quelques violences, notamment parce qu'il criait, parce qu'il demandait à rester en France. On lui a appuyé très fort sur la carotide pour l'empêcher de crier. On l'a quasiment étouffé.
Ouais.
On lui avait passé, ça c'est une procédure assez standard dans ce genre de situation. On lui avait placé un casque de boxeur sur la tête pour éviter qu'il ne se tape quelque part. Et puis voilà, il a été. Donc son expulsion s'est faite dans la violence, malheureusement, parce que je pense qu'il voulait, lui, il voulait rester en France, tout simplement, parce que c'est le pays dans lequel il y a ses enfants, il y a sa femme, sa fille qui a 18 mois, son fils qui a 9 ans, enfin 8 ans et demi, pardon, qui a passé en CM1, c'est sa maman qui va être régularisé prochainement, probablement, on peut l'espérer en tout cas, puisque ils sont présents sur le sol français depuis 5 ans maintenant, qu'ils ont des enfants scolarisés depuis 5 ans, que la maman a une promesse d'embauche, qu'ils rentrent pleinement dans les conditions d'une circulaire de 2012 qui dit dans quel cas les enfants, enfin les étrangers peuvent être régularisés, ils sont pleinement dans les conditions de cette circulaire. Donc Cassie, s'il n'avait pas été arrêté, aurait été probablement régularisé. Sa femme va l'être, mais lui est en Algérie, malheureusement, séparé de ses enfants. Ces enfants qui, ces jours-là, étaient à l'école. Un peu pour ironie de l'histoire, son fils, en ce moment, est en train d'apprendre la Marseillaise, parce que il va être présent à un spectacle, il était présent le 26, journée de l'aviateur, aux Invalides, où il allait avec sa classe chanter la Marseillaise, voilà. Donc c'est ce papa-là qu'on a expulsé dans la violence, malheureusement, jeudi dernier. Jour de ironie aussi de l'histoire, c'était la journée mondiale des réfugiés, même s'il n'était pas directement réfugié.
Mmh.
Voilà. Donc aujourd'hui, la bataille, elle continue pour évidemment que sa femme soit régularisée, puisqu'elle est dans les conditions de la régularisation. On aimerait bien qu'elle le soit. Hein.
Mmh.
Ensuite, pour pouvoir faire en sorte que l'interdiction de retour sur le territoire français soit levée par juge administratif.
Mmh.
Parce que quand on a une obligation de quitter le territoire français, elle est assortie d'une interdiction de retour. Et c'est le cas de Cassie, évidemment. Pendant un an, la décision du préfet des Hauts-de-Seine fait qu'il ne peut pas remettre les pieds sur le territoire français. Donc l'objectif, maintenant, ce serait que cette décision soit annulée par le juge administratif. Parce que je pense que c'est quand même le droit des enfants de vivre avec leurs parents. Et peut-être que ce serait bien que l'État français, la justice, le prennent en compte, quoi. Voilà.
Voilà. Et on va rester évidemment très attentif à ce qui se passe. Et puis à chaque fois qu'il y a une mobilisation à laquelle on peut participer, tu nous préviendras et on en continuera à reparler de Cassie, bien sûr.
Oui. J'ajoute juste que la FCPE Paris, lors de son congrès, a fait en ouverture du congrès une tribune. Pour Cassie, en fait, avec son avocat, des représentants de RESF, Et puis sa femme,
ouais.
Ainsi que la maire d'arrondissement et son adjointe aux affaires scolaires. Et la présidente de la FCP Paris a à cette occasion lu une tribune et, qui est disponible sur le site de la FCP Paris que vous pouvez donc consulter. Donc c'est www.fcpe75.org et dans la partie actualité. Voilà.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Renaud. Peut-être tu as des choses encore à ajouter.
Je pense qu'il faut continuer à se battre pour que Cassie puisse rentrer, comme je le dis, ne pas être séparée, continuer à être séparée de ses enfants. Et je crois que le combat continue. Je crois qu'on a perdu une bataille, j'espère qu'on n'a pas perdu la guerre en tout cas. Voilà.
Voilà, et de toute façon, il faut toujours continuer. Et puis je rappelle qu'on était, donc ça fait un peu plus d'un mois qu'on parle de Cassie à toutes les émissions, qu'on était en direct avec Cassie depuis le Ménilamlio il y a 2 semaines. Voilà.
Oui. Elle fait objet d'une mobilisation importante, il y a eu des articles de presse à son égard, à son sujet, notamment de Libération, par exemple, des émissions, enfin voilà, et puis votre émission à la radio, d'autres interventions à la radio également. Et malgré cette mobilisation, malgré les demandes d'audience qu'on a pu adresser au ministre de l'Intérieur, à son cabinet, au préfet des Hauts-de-Seine, à son cabinet, on n'a eu le droit à aucune réponse, uniquement du mépris, et on n'a même pas pu être reçu pour défendre la situation de Cassie. Voilà. C'est regrettable.
Ok. Ah ben merci beaucoup Renaud, et puis donc on en reparlera certainement la semaine prochaine et encore, voilà.
Merci Yves.
Et puis à la victoire, merci Renaud, et puis à très bientôt. Donc, et si tu as Cassie au téléphone, parce que je crois que vous êtes régulièrement en communication, Cassie, son épouse et les enfants, tu leur dis un grand salut de notre part et de la part de FPP.
Tout à fait, je n'y manquerai pas.
Ok. Eh bien, au revoir et puis à très bientôt. Donc.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Voilà, on était donc sur l'émission RESF, 106.3 à Paris, proche banlieue, avec Renaud qui a beaucoup suivi donc de la FCPE 75, qui s'est beaucoup occupé de Cassie. Et je propose qu'on écoute tout de suite une interview enregistrée ce matin. On n'a pas pu le faire en direct par téléphone. Donc avec M. Fofana, qui travaille pour Chronopost. Ça fait 2 semaines maintenant que Chronopost, que les travailleurs sans papier de Chronopost occupent donc maintenant ils n'occupent plus le lieu de Chronopost, mais ils sont sur le trottoir devant. Mais donc on écoute tout de suite Monsieur Fofana enregistré ce matin qui nous raconte tout ça. Allô, bonjour Monsieur Fofana, vous allez nous parler donc de l'occupation de l'agence Chronopost d'Alfortville qui a commencé le 11 juin, ça fait donc 15 jours maintenant.
Bonjour, ça va? Ouais, en fait, nous, on a travaillé là-bas. Depuis le 11, on a fait l'occupation jusqu'à maintenant, ouais. On est toujours là-bas, on n'a pas eu d'ENF.
Ouais.
Ouais. On est nombreux, comme quoi nous, on est travaillé là-bas sans papier. Quand on a fait la déclaration, ces gens ne veulent pas nous régulariser. Quoi. C'est pour cela que nous aussi, on a décidé de crever là-bas. Donc, depuis les 11, on est là-bas. Toujours, on n'a pas eu d'ENF.
Ouais.
Ouais.
Les Chronopost, c'est la Poste, et la Poste qui emploie des travailleurs sans papier.
Oui. Juste, moi, à mon avis, il nous a exploités. Quoi.
Ouais.
Parce qu'on est tous nombreux là-bas.
Ouais.
Quand il y a certains qui ont fait 10 ans,
ouais.
Plus même, parce que quand tu es arrivé à 15, 17 mois comme ça, ils vont te donner fin d'émission.
Ouais.
Après, ils vont t'appeler de revenir encore. Quoi.
Mm-hmm.
Ouais, ils vont t'appeler de revenir encore.
C'est directement des embauches faites par la Poste ou par Chronopost ou c'est des embauches de sous-traitants?
Non, c'est des sous-traitants parce que nous. C'est des sous-traitants de Glesbourg, quoi. Parce que c'est Glesbourg qui nous a envoyé là-bas.
Ouais.
Mais Glesbourg, parce qu'il nous envoie une mission de la semaine, quoi. C'est chaque semaine qu'il nous envoie des missions.
Ouais.
Glesbourg, à chaque semaine, il note leur mission. On est obligé d'amener nos pièces là-bas. Mais nous, quand on part là-bas, ces gens qui nous disent. Ils ne nous demandent rien, juste ils nous laissent passer des rentrées, on travaille comme on veut.
Mm-hmm.
Parce qu'ils se profitent de nous, quoi.
Ouais.
Ouais. Nous, eux-mêmes sont au courant que nous, on n'a pas de papier, mais juste pour se profiter de nous exploiter, c'est tout.
Ouais.
Maintenant, quand on veut faire, on les a demandé pour la régularisation, on ne veut pas prendre la responsabilité comme quoi on doit passer par des riches bourgs. C'est pas à eux de faire l'occupation, quoi.
Ouais.
En fait. Ouais.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des conditions de travail, de salaire, des horaires qu'on vous fait subir?
Non, c'est des salaires très bas, en fait. Parce que nous, on travaille souvent des 3 heures, souvent des 4 heures du matin à 5 heures. Ça dépend, quoi.
Ouais.
Des heures supplémentaires aussi, c'est non payé, ça paye pas.
Ouais.
Donc, nous, parce qu'on n'a pas le choix, on est condamné à travailler. Oblige, faut qu'on les fasse.
Ouais.
Même des heures supplémentaires, malgré que ça paye pas, mais on peut pas refuser de les faire. Faut qu'on les fasse.
Mmh.
Ouais.
Et on voulait payer les heures supplémentaires?
Si, on fait des heures supplémentaires, mais c'est pas nous seulement, parce que même des gens qui sont embauchés là-bas, c'est plein souvent même pour des heures supplémentaires. Il y a certains même qui refusent de les faire parce qu'ils vont dire qu'ils ne les payent pas.
Ouais.
Même les gens qui sont embauchés là-bas.
Ouais.
Une fois qu'on dépasse l'heure normale seulement pour les cibles seulement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent même. Il y a beaucoup de même qui laissent le travail pour aller. Ils vont dire qu'il y a un, ils ne les payent pas. Ce n'est même pas la peine de faire.
Mmh.
Imagine, nous, on travaille là-bas, on a des loyers à payer, à manger, des tickets comme ça à prendre chaque mois. Donc, souvent, 500 euros, 600, si c'est trop, 600. 600 euros. Donc, en fait, nous, on ne gagne rien, mais juste, on est obligé à les faire parce qu'on n'a pas le choix. Ouais.
Ouais. Et donc, depuis l'occupation, je crois qu'il y a eu des moments qui ont été un petit peu chaud, on pourrait dire, avec des arrestations, des...
Si on a eu, depuis le premier jour, Christian a été arrêté avec un journaliste aussi.
Ouais.
Ouais. Depuis le premier jour, Christian, lui, il a été arrêté avec un journaliste aussi.
Ouais.
J'espère qu'ils ont fait, 24 garde à vue là-bas.
Ouais.
Voilà. Donc, il a été libéré aussi.
Et vous avez quand même beaucoup de soutien et au niveau des syndicats et au niveau des politiques et des collectivités territoriales.
Ouais, ça va. Depuis qu'on a commencé jusqu'à un jour, donc chaque jour, il y a des gens qui partent là-bas pour nous soutenir.
Ouais.
Ouais. Depuis qu'on a commencé, tels que les maires d'Alfortville, les députés, beaucoup de grandes personnalités là-bas pour nous soutenir depuis le premier jour jusqu'à nos jours.
Et je crois que vous passiez, il y avait un procès pour dire si vous pouviez rester ou non, et il y a eu le résultat hier, je crois.
Ouais, bon, les gens de Chronopost avaient saisi les tribunaux comme quoi de nous évacuer, des mer parking et ce qui est de l'air porte aussi, quoi.
Ouais.
Mais le verdict est tombé hier, donc comme quoi les juges nous ont évacués de l'intérieur de l'air parking, mais ils nous ont dit qu'on peut rester à la porte, quoi.
Mmh.
Et pourtant, lui, ils ne veulent pas ça, parce qu'ils veulent de nous évacuer carrément de l'air entourage même.
Ouais.
Bon. Nous, quand même, on n'est pas découragés.
Ouais.
On garde toujours la morale de rester là-bas.
Et vous êtes dedans ou vous restez à la porte, enfin, vous restez quand même à l'intérieur ou vous êtes sorti pour aller à la porte?
Hein? Non, on était dedans, mais il nous a évacué de sortir. Donc, c'est hier soir même, on est sorti pour rester à la porte.
Okay.
Maintenant, on est à la porte.
D'accord.
Ouais.
Et il va y avoir, donc, cet après-midi, au moment où on diffuse l'émission, un rassemblement. Ouais.
Bon, justement, nous, on veut la régularisation, on a besoin du soutien de toutes et tous. Chacun, donc juste pour la régularisation. C'est tout.
Voilà, donc sinon on peut passer vous voir. Et...
Ouais. Bon, on peut dire, on a eu beaucoup de solidaires quand même, mais on veut que toujours ça se renforce, quoi. Ça renforce, franchement parlé. Parce que nous, on a décidé de gréver une fois que on ne le souhaite pas, quand, si ça s'est mal passé, c'est comme. Les gens nous ont exploités pour rien, bon, on va perdre nos boulots. Ça va pas du tout, quoi, en fait. On espère que ça ira bien, quoi.
Le plus important, passez-vous voir déjà.
Ouais.
Et il y a une pétition qui est en ligne pour demander la régularisation.
Ouais. Nos objectifs, même, c'est ça. La première des choses, c'est d'être régularisé. Et de ne prendre un CDI.
Ouais.
Ouais. C'est ça.
Ok, eh bien merci beaucoup Monsieur Fofana et puis
merci à vous aussi.
J'espère qu'on pourra en reparler pour annoncer votre victoire.
Ok, ça marche. Ouais. Merci à vous aussi.
Au revoir, merci.
Ok, merci.
Là, vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et on était donc ce matin par téléphone avec M. Fofana, qui est un des grévistes qui occupe, eh bien maintenant, qui occupe le trottoir devant l'agence Chronopost. Alors, on n'avait pas donné l'adresse de l'agence Chronopost, hein, et c'est très bien si on peut aller leur rendre visite et manifester sa solidarité. Donc, l'agence Chronopost, c'est deux chemins de Villeneuve-Saint-Georges à Alfortville. Et avant de retrouver Oussam de la Chapelle Debout, hein, enregistré lors de la réunion publique de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, c'était le 15 avril dernier, eh bien, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Sharkat, un album super qui s'appelle Don't Climb the Pyramids. Voilà, donc tout de suite, Joséphine. À l'écoute du RSF sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et on vient d'écouter Joséphine, hein, c'était un album commun de Maniacs et Sharkat, hein, qui s'appelle Don't Climb the Pyramids. Et on va tout de suite retrouver Oussam et Nadjoudine, hein, enregistrés donc lors de la réunion publique de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, hein, donc du 15 avril dernier, et qui était consacré au mouvement de révolte dans les lieux de rétention. Donc tout de suite, Oussam. Voilà.
Donc maintenant, je vais passer la parole à Oussam d'abord pour présenter effectivement le collectif La Chapelle Debout par rapport à ces problématiques-là. Donc Oussam, je te laisse.
Ok. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Oussam. Je fais partie du collectif La Chapelle Debout, comme Najmuddin. Ce qu'on vous propose, c'est que moi j'ai un mandat où je dois lire un texte du collectif. Voilà, c'est obligatoire. Donc je vous propose de vous l'infliger. Ce sera très court. Et puis par la suite, il y a Najmuddin et Naman qui vont vous parler. N'hésitez pas surtout à poser des questions. Tout ce qu'on va vous dire est issu de rencontres, de cas concrets et de résistances, puisque je pense que tout le monde sera d'accord dans cette salle pour dire que la situation est horrible, qu'elle est illégale, que c'est violent et que c'est raciste. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et il se trouve qu'il y a pas mal de choses qui se font en ce moment. Et donc, plutôt que de déplorer, l'heure est à rendre les coups. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on avait à vous dire en tant que collectif, c'est rappeler quelques évidences. D'abord que, à celles et ceux qui nous disent que c'est la loi asile-immigration qu'il fallait modifier, nous répondons que c'est le code des étrangers qu'il faut abolir. À celles et ceux qui nous ont dit que c'était contre l'allongement de la durée de rétention qu'il fallait lutter, nous avons répondu et nous répondons que c'est les centres de rétention qu'il faut fermer. À celles et ceux qui nous disent qu'il faudrait des expulsions à visage humain, nous répondons et nous répondons que c'est les policiers que nous voulons déporter. Tout cela peut sembler bien extrême aux oreilles de celles et ceux qui n'auraient pas de papier, pour celui ou celle occidentale qui a voyagé, qui s'est installé, sans jamais être inquiété pour ses papiers. Mais le CRA est une réalité bien connue par tel travailleur ou travailleuse en France depuis un mois ou depuis 15 ans sans papier, par tel demandeur d'asile qui vient d'arriver ou attend une régularisation depuis 3 ans, en somme, par toute personne qui n'a pas de papier. C'est une réalité bien connue, notamment par celles et ceux qui viennent de pays anciennement colonisés et maintenant néocolonisés. Parce que le CRA a gagné en banalité dans le quotidien de l'État français ce qu'il perd toujours comme violence reconnue dans le milieu carcéral anti-militant et même dans le milieu militant dans son ensemble, souvent trop sourd aux questions de racisme d'État et de colonisation, comme ils l'ont été jusqu'à très peu pour ceux qui étaient des mouvements féministes. Le CRA est une partie non négligeable du système carcéral, il faut le dire, le CRA est une prison. Au même titre que nous luttons pour la fermeture des prisons, nous luttons pour la fermeture des CRA. La lutte anticarcérale et pour l'égalité des droits ne saurait avoir d'angle mort. Ce n'est d'ailleurs pas une institution isolée du système carcéral, avec 50% des étrangers dans les prisons franciliennes. 50% d'étrangers dans les prisons franciliennes, le CRA est souvent, comme tu le disais, la destination finale de la maison d'arrêt ou de la maison centrale. Après la rétention, détenu puis retenu, mécanisme de double peine, tu paieras pour ce que tu as fait et pour ce que tu es, mécanisme instauré en 1945, car il est des corps qui ne méritaient pas d'être en France, comme à Sétif ou en Kanaki d'être libérés. Enfermés parce que racisés, enfermés parce que pauvres, soumis au régime de déportation autant qu'à l'arbitraire de la violence policière, à l'ombre des murs du CRA, telle est la condition des étrangers illégalisés en France métropolitaine et surtout dans les territoires dits d'outre-mer. Aux indignés de la 25e heure, aux castors qui font un barrage un dimanche tous les 5 ans et à celles et ceux qui ne font que signer des tribunes ou se révolter sur Facebook, aux députés aussi collaborateurs qu'ignorants qui ont voté la loi ou font mine de la déplorer, de découvrir que maintenant on enferme des enfants, nous affirmons, honte à vous, qu'ils aillent rendre visite aux retenus détenus, qu'ils se rendent compte que le nombre d'enfants en rétention a été multiplié par 7 de 2013 à 2017. Il y a 2 semaines, on était avec Najmuddin au CRA du Ménil et on a pu voir une fille de 3 ans qui attendait sa mère qui sortait de prison pour être déportée au Nigeria. Peut-être que vous pourrez lui en parler parce qu'il m'en parlait juste avant de venir en me disant... Est-ce qu'on a le droit d'en parler de ça ou pas ? Nous ne comptons plus les automutilations, les tentatives de suicide, les passages à tabac. Faut-il autre chose pour qualifier la rétention de violence d'État ? Violence d'État qu'ont subi Mohamed Moussa, drogué et expulsé au Soudan. M, algérien, assassiné par la police dans un avion Air France au Danemark. Farad, tabassé, Fetouma qui s'est jeté du 6e étage du CRA de Cité lors de sa rétention, hospitalisé et libéré parce qu'entre la vie et la mort pour que la police n'ait pas assumé le verdict. Car ce n'est pas seulement tel coup de matraque dans un couloir vide qu'il faut dénoncer, c'est la complicité d'un système judiciaire, ça aussi on reviendra peut-être dessus, qui non seulement couvre la police, mais en plus établit la rétention et la déportation comme l'aboutissement normal d'une vie de sans-papiers dans le chaînon du triptyque d'accueil à la française après la rafle. Ce n'est pas seulement tel juge, président de la Cour d'appel de Paris, qui décide de ne pas libérer plus de 3% des retenus par simple esprit de fascisme, ou tel autre, nommons-le, plutôt juge de la détention que de la liberté, qui enferme sans exception. C'est le rôle de l'institution judiciaire, comme force de légitimation, comme pratique finalement policière, par le contrôle qu'elle impose, la surveillance qu'elle exerce et les décisions qu'elle prend, qu'il faut dénoncer. Merci. Et donc, du coup, ça, c'est la partie perspective. Dès lors, le mythe du changer de l'intérieur peut vite se transformer en collaboration réelle. S'il doit y avoir une présence ancrée, cette présence doit être handicapante, paralysante, et ne peut se situer que dans une perspective abolitionniste. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de CRA à visage humain. Encore une fois, ce n'est pas le coup de matraque qui fait la violence d'État, c'est le mur et ses barbelés, c'est l'avion et son escorte policière, c'est le tribunal et son juge raciste. C'est le système, pas l'exception au système, c'est la structure, pas la bavure. C'est pourquoi nous allons en CRA, chaque semaine, nous allons en CRA comme nous soutenons la résistance palestinienne. Le lien n'est pas anodin, Gaza est aujourd'hui le laboratoire des politiques d'enfermement et de surveillance. Aussi, le premier enjeu politique consiste à faire connaître la réalité du CRA et à soutenir tous les retenus. Rendre visite, écrire, se rendre disponible. On a lancé un blog qui s'appelle InfoCRA. Il y en a un autre qui s'est créé au moment des grèves de la faim qui s'appelle Abat les CRA, qui se réunit, les gens autour de ce blog se réunissent tous les mercredis au CICP à 19h pour ceux qui voudraient participer. Donc, faire connaître la réalité du CRA, soutenir les retenus, témoigner des réalités vécues derrière les barreaux, offrir la possibilité d'une parole politique à celles et ceux qu'on veut faire taire, traduire, imprimer, se faire l'écho et la base arrière des rébellions, des grèves de la faim ou des mutineries. En somme, faire ce qui n'a pas été prévu, tenter de faire dérailler le wagon. Le second enjeu consiste à mettre des cailloux dans les rouages pour que le wagon qui a déraillé ne puisse revenir sur le droit chemin. Manifester devant les CRA, faire des parloirs sauvages, exercer une pression constante sur la police, empêcher les avions de partir avec des retenues, manifester dans les aéroports, pourrir les compagnies aériennes par des campagnes de dénonciation. Alors seulement, nous pourrons jeter les bases d'un mouvement anticarcéral et abolitionniste. Donc, je vais passer la parole à Najmeddine, qui aussi fait partie d'un groupe qu'on a lancé il y a peu par rapport à ce que fait en ce moment la préfecture du Pas-de-Calais, qui a lancé une offensive contre des migrants soudanais pour les déporter directement vers Khartoum. La chance qu'on a eue, c'est que grâce à la révolution soudanaise, l'espace aérien a été fermé. Il y a eu une suspension de ces déportations, ce qui donne lieu en ce moment à la possibilité pour nous de nous organiser. Tfaddal.
Ana ismi Najmeddine, ana min al-Soudan, min Iqlim Darfour.
Bonjour, je m'appelle Najmeddine, je suis soudanais, je suis darfouri.
Min Iqlim Darfour, ana jid ila al-Khartoum wa kunt indi shahadat min al-markaz bta' al-lajiin fi ma'askar ismu ma'askar Kalma fi Iqlim Darfour.
Moi, je suis arrivé en France, j'avais des preuves que je venais d'un camp de réfugiés qui s'appelle Kalma, dans le Darfour.
سجن اسمه سجن كوبر سجن شهير جدا بيعتقلوا فيه الاشخاص اللي هم جايين من اقليم بتاع دارفور غرب السودان
et donc du fait de venir de ce camp de réfugiés qui est particulièrement connu il y a eu des associations humanitaires qui m'ont permis d'obtenir un visa en France pour venir en France en tant que et pouvoir demander l'asile en France.
أنا السبب اللي خلاني إنه أجي في فرنسا لأنه أنا فقدت كثير من أسرتي يعني في إغليم بدارفور بسبب عمر حسن أحمد البشير, وده السبب اللي خلاني إنه أنا أجي إلى فرنسا. وبعد أول ما حصلت إلى فرنسا هنا فواجهتني مشاكل, يعني أنا الجاء إلى فرنسا أنا طلبت الخيار للمنظمة التابعة لحقوق الإنسان, أنا طلبت قلت لهم تعمل لي فيزا لفرنسا, عايز أقدم لجوء في دولة فرنسا. ولكن لما جيت إلى فرنسا هنا أصدمت بالتعامل السيء جدا من قبل الشرطة هنا في مطار شارل دو غول, فاتحصلت تعرضت إلى حبس في المطار.
Et donc du fait de du fait de moi, c'est moi qui ai demandé de venir en France quand on m'a donné le choix d'avoir plusieurs visas européens puisque je m'attendais à ce que ça se passe bien. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai eu plusieurs problèmes et c'est là qu'on va rentrer. Parce que j'ai été accueilli par la police à l'aéroport.
فاتحبست في سجن قريب من المطار, قريب من مطار شارل دي غول.
J'ai été emprisonné dans en Zappi, dans voilà, ça s'appelait donc le Zappi 3.
فاستجنت هناك ومن هناك عرضوني للمحكمة, عرضوني للقاضي, فهو قريب من السجن.
De là, j'ai été emmené chez le juge.
وأنا في نفس الوقت ما كنت بجيد اللغة الفرنسية, فبتحدث قليل من اللغة الإنجليزية وبتحدث اللغة العربية, ولكن ناس الشرطة هم بيرفضوا إنه يتحدثوا اللغة الإنجليزية والعربية, فدي كانت مشكلة واجهتني يعني.
Et le premier problème que j'ai eu, c'est que je voulais parler, moi je parle pas français, donc je voulais parler éventuellement en anglais ou éventuellement en arabe, mais la police ne refusait que je parle aucune de ces deux langues.
فنحن كنا كمية من الأشخاص اللي كنا عارضيننا إلى القاضي, وفي نفس الوقت كان في محامي اسمه أندريه ميكانو, حتى الآن أنا محتفظ بالكرت بتاعه, ده الكرت بتاع المحامي اسمه أندريه ميكانو, وأنا بوصل رسالة يعني للمنظمات بتاع حقوق الإنسان والمنظمات اللي بيدافعوا عن اللاجئين والأشخاص اللي ما عندهم أسر في فرنسا, إنه المحامي ده هو اعتدى علي وعنده 500 يورو هو كان شاله مني, وهو قال لي ده مبلغ بالدفع للقاضي عشان يطلق سراحه, وأنا ما كنت عارف النظام بتاع البلد كيف, هو كان نصب علي يعني في نفس الوقت.
Et donc là-bas, alors que j'attendais le juge, il y a un avocat dont je vous présente la carte qui s'appelle André Mécan. Et André, j'aimerais que les associations qui s'occupent de droits humains ici aille le poursuivre parce que ce monsieur-là est venu me voir et m'a dit que je devais lui donner 500 euros pour qu'il puisse les donner au juge pour que je sois libéré directement. Je lui ai donné, mais il ne les a jamais rendus, mes 500 euros, et je n'ai pas été, en l'occurrence, libéré.
ومن هناك انا طلبت انه يعمل لي استئناف في المحكمه عشان اقدر اتحدث بطريقه كويسه ويجيبوا لي مترجمه تتحدث اللغه العربيه. هم عملوا لي استئناف في منطقه اسمها سيتي في باريس هنا.
Donc après le jugement, on m'a dit que je pouvais faire appel et que j'avais le droit de faire appel. On m'a emmené dans un tribunal qui s'appelle le tribunal de cité.
وانا حكيت مع المترجمه ان هي تشرح لي انه تديني الفرصه انه انا اتكلم مع القاضي, انه المحامي ده هو اخذ مبلغ من المال وهي كانت خايفه يعني ما قدرت تتكلم.
Et je lui ai parlé du fait qu'on m'avait volé de l'argent à la traductrice, mais elle avait peur et elle a pas osé parler pendant l'audience.
من هناك رجعوني المركز بتاع الترحيل, القاضي رفض انه يطلق سراحي واخذوني الى مركز بتاع الترحيل في منطقه اسمها فانسان هنا في باريس.
De là-bas, j'ai perdu l'audience et ensuite on m'a emmené dans une autre prison qui s'appelle Vincennes.
ومن هناك انا قعدت شهرين يعني هم انا عرضوني على اربع قضاة في باريس وهم ما اطلقوا سراحي في نفس الوقت, وانا في نفس الوقت عندي الشهادات ما تثبت انه انا كنت لاجئ من اغليم دارفور, عندي شهادات وريتهم المعسكر اللي انه انا كنت قاعد فيه معسكر بتاع كلمه معروف انه معسكر شهير جدا في اغليم دارفور, عندي كل ما يثبت انه انا شخص لاجئ, وبعرض الاوراق للقضاء وهم القضاء في نفس الوقت مصرين على القرار الاول بتاع القاضي اللي انه هو طلب انه انا لازم اترحل الى السودان.
En tout et pour tout, j'ai rencontré 5 juges et tous les juges ont suivi l'avis du premier juge qui consistait à m'enfermer, et moi je comprenais pas parce que pourtant c'est très très connu le camp, ce fameux camp de Calma dont par ailleurs j'avais toutes les preuves, et malgré le fait que je leur montrais les preuves et que je leur expliquais que je pouvais pas me permettre de retourner dans la mesure où j'avais été emprisonné dans la prison de Cobert dont il a parlé tout au début, et ben j'ai jamais été libéré. J'ai passé plus de 2 mois un mois et demi dans le centre de rétention.
وطلبت تقديم بتاع اللجوء, هم قالوا لي عندك الحق لمدة 5 ايام في المركز ذا ممكن تقدم فيه اللجوء داخل السجن بتاع الترحيل.
Quand je suis arrivé, on m'a dit t'as 5 jours pour demander l'asile ici.
وفي نفس الوقت يعني انا ما عندي خلفيه عن الطريقه بتاعه التقديم وطلبت منه لازم اقدم اللجوء داخل المركز لانه اذا ما قدمت اللجوء هم قالوا لي لا انت بتترحل عندك الفرصه انه تقدم اللجوء اذا اخذت الاقامه حنطلق سراحك فانا قدمت اللجوء طوال يعني في نفس الوقت بطريقة حتى كانت ما إنسانية يعني حتى ناس الشرطة هم كانوا يعني بيكلبشوني وبيأخذوني على الأوبرا أخذوني على الأوبرا وأنا كنت مكلبش يعني حتى أنا لما جيت لقيت في أشخاص هم جايين بتلقى روحهم يعني هم جايين إنه يقدموا اللجوء وأنا جاي مكلبش يعني مع البوليس حتى سلمني للمحققة داخل الأوبرا بطريقة ما إنسانية.
On m'a demandé de demander l'asile et on m'a dit que si j'obtenais l'asile, eh ben j'allais être libéré. Et donc du coup, j'ai dit d'accord, je veux bien demander l'asile, mais à ce moment-là, on m'a mis des menottes et on m'a emmené menotté à l'OFPRA. Et je comprenais pas pourquoi moi je devais être accompagné avec la police et menotté devant l'officier de protection, alors que d'autres ils venaient comme ça. Et c'est une façon inhumaine de faire.
في حتى في المقابله بتاعتي مع المحققه في الاوبرا حتى البوليس يعني هو قافل الغرفه وقريب مني يعني حتى انا ما قدرت احكي المشكله بتاعتي الاسباب اللي خلتني انه اجي الى فرنسا الاسباب اللي خلتني انه انا اقدم اللجوء يعني ما اخذت الاريحيه لانه انا كنت في نفس الوقت ما قادر احكي كويس وكنت محدد بالترحيل في نفس الوقت يعني.
Et alors que j'étais avec les policiers qui expliquaient qu'ils allaient me déporter, le policier était avec moi dans la salle de là où je racontais mon histoire. Et du coup, je n'arrivais pas à raconter ma vie devant la police, tout en pensant au fait que je risquais d'être déporté devant un officier de protection.
فمن هناك رجعوني إلى المركز بتاع الترحيل وهم ردوا لي في أربع أيام ناس الأوبرا جابوا لي الرفض.
Depuis, puis j'ai été ramené à la au centre de rétention et au bout de 4 jours j'ai reçu un refus.
ادوني رفض على طول وناس المكتب بتاع الاسفام اللي هم موجودين في المركز بتاع الترحيل هم قالوا لي عندك الحق انه تقدم الاستئناف فانا لما اطلعت على الملف لقيت انه لازم انا اطعن في المحكمه الوطنيه في حقوق اللاجئين في مده لا تتجاوز ال 15 يوم وانا طلبت المركز اللي انا كنت محتجز فيه انه يعمل لي الاستئناف وهم قالوا لي احنا نعمل لك الاستئناف لكن صعب انه ما بيطلقوا صراحه هم بيرحلوك يعني حتى اذا عملت استئناف هم بيرحلوك
et là on m'a dit les gens de l'ASFAM m'ont dit tu peux faire appel de la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile j'ai dit d'accord mais ils ont insisté sur le fait que ce n'était pas suspensif et que il était possible que je me fasse déporter dans l'attente de mon audience
فالحقيقة هنا كانت بقى صعبة هنا بدأت تلعب بي الشرطة يعني وفي كل بعد أسبوعين هم بياخذونا على المركز بتاع الترحيل بتاع المطار.
Là, ça a été particulièrement compliqué parce que deux fois par semaine, la police venait me voir pour essayer de m'emmener à l'aéroport.
فمن هناك المنظمة بتاع الأسفام الموجودة فهي ساعدتني وعملت لي كل شيء ما قدرت تساعدني إنه أنا يطلقوا صراحي فهي اتكلمت مع المنظمات الخارجية. فهم حكوا مع منظمة اسمها لشابيل ديبو عند منظمة ناس حسام الآن أنا شغال معهم. فهم جوني وعملوا لي زيارة في المركز لأن أنا كنت لوحدي ما عندي شخص هنا في فرنسا ولا حتى عندي أسرة هنا في فرنسا ولا كنت بعرف شخص أنا جاي بإرادتي طالب اللجوء في فرنسا حبا في فرنسا ولكن أصدمت بالتعامل فالمنظمة بتاعت اللشابيل ديبو فهم كل بعد 3-4 أيام هم بزورونه بيجيبوا لي الأكل ويشتروا لي تلفون وهم بحول لي الرصيد في كونتاك بينه وبينهم بنتحدث معهم يعني في الطريقة بتاعت إنه يساعدوني كيف إنه ما أترحل.
Et donc c'est à partir de là que l'ASFAM a pris contact avec la Chapelle de Boud, dont je suis maintenant actuellement membre, qui m'ont ramené un téléphone, qui ont commencé à discuter, à me rendre visite et qui ont commencé à discuter avec moi sur comment nous organiser pour empêcher la déportation.
فهم بيساعدوني في كل طيارة بياخذوني على المطار فأنا بتحدث معهم بقول لهم إنه الليلة ناس البوليس عاملين لي طيارة والآن هم ماخذيننا على المطار فهم بيمشوا على المطار على طول وبيحكوا مع الركاب بقول لهم إنه في شخص سوداني وهو لاجئ ومحدد بالترحيل الآن فبيتكلموا مع الركاب تحت فأنا لما بكون داخل الطائرة وبتحدث إنه برفض إنه الركوب بتاع الطائرة الركاب هم بيقوموا بيساعدوني لأنه عندهم خلفية تحت إنه الناس المنظمة بتاعت الأشابيل ديبو حكم عام وأخطروهم ووروهم إنه في شخص محدد بالقتل وفعلا إنه أنا كنت محدد بالقتل يعني أنا عندي الفرصة واحدة إما أموت في فرنسا إما أموت في السودان فأنا قاتلتها من أجل الحياة فقط مش من أنا مش خايف إنه أنا أترحل أنا خايف إنه أحافظ على حياتي فقط ده السبب اللي خلاني إنه أنا أرفض رجوع الترحيل لأنه حياتي في خطر يعني.
Moi, quand j'avais information qu'il y allait avoir un avion, je prévenais les personnes. Les personnes allaient à l'aéroport et discutaient avec les passagers pour les convaincre de refuser de s'asseoir. Donc ça, c'est arrivé 4 fois. les gens ont chaque fois refusé de s'asseoir. Moi, j'ai manifesté et je me suis beaucoup battu dans l'avion, mais je me suis battu pas par peur d'être déporté. Je me suis battu pour vivre. Parce que je veux pas mourir et que je savais que si j'étais déporté, j'aurais été tué à mon arrivée. Et c'est pour ça que c'était pas possible pour moi de ne pas résister à cette déportation.
الطيارة الثالثة أنا رفضت ثلاثة طيارات. الطيارة الثالثة القاضي جاب لي الرسالة إنه في خلال 45 يوم يطلقوا سراحي.
Le après le troisième vol que j'ai refusé, j'ai reçu un papier du juge qui disait que au bout de 45 jours, je serai libre.
فناس الشرطة هنا أبي يطلقوا سراحي في آخر طيارة فهم كانوا يتعاملوا معي بطريقة قاسية جدا جدا وهم كانوا مكلبشيني بطريقة بشعة جدا جدا فحتى أنا حكيت مع ناس الشابيل ديبو في فترة وجيزة ما تتجاوز الدقيقة ونصف فاتكلمت معه منه أنا الآن ماخذني وفي هذا الوقت غالبا إنه ياخذوني على السودان فطريقة صعبة جدا جدا فممكن تساعدوني إنه تحصلوني قدامي في المطار فهم حصلوا في المطار وهم ساعدوني واتوفقت انه رفضت الطائره لانه هم قالوا لي انه لازم تتعامل ببروده عشان تخرج من الطائره ترفض ركوب الطائره لازم تتعامل مع البوليس ما تحسسهم انه انت ما عايز تمشي السودان تتعامل ببروده فاتعاملت معهم ببروده وفي اخر لحظه انه قبل الاخلاء بتاع الطائره فانا حكيت باللغه الانجليزيه كثيره جدا جدا وطلبت انه يجيبوا لي المحامي داخل الطائره وطلبت انه انا شخص لاجئ ومهدد بالقتل وما ارجع السودان فرفضت ركوب الطائرة ونزلت بعد ما نزلت أخذوني في سجن اسمها القردافيو قريب جدا من مطار شارل دي غول.
Et donc à la dernière déportation, comme c'était le dernier jour qu'ils ont essayé de m'expulser, je suis resté très calme. Donc là, il décrit la stratégie qu'il a employée pour résister. Et je me suis manifesté qu'au dernier moment pour empêcher qu'on me déporte. Et c'est suite à cet acte de résistance que j'ai été emmené dans une autre prison à côté de Charles de Gaulle.
ففي السجن ده أنا يومين حبسني فيه وما أكلته حتى ما لا جابوا لي أكل لا شراب اليوم الثالث أخذوني في سجن اسمه بوبيني في السجن ده أخذت يعني ثلاثة أيام ما مديني أكل يعني أنا حتى بقيت ما قادر أتحرك من كنت مسجون في غرفة معزولة جدا جدا حتى البوليس كان بيتعامل معي بغساوة جدا جدا فتعرضت لضرب أول ما نزلت من الطيارة فتعرضت لضرب ضرب مبرح جدا جدا من الشرطة أخذوني إلى بوبيني من سجن بوبنين عرضوني إلى المحكمة الناس اللي شابيل جدوبو هم جو من هناك ووفروا لي محامية اسمها لورا فهي ساعدتني جدا جدا وطلبت إنه يجيبوا لي دكتورة نفسانية والدكتورة فحصت علي إنه لقت إنه ما المعدة فاضية جدا ما فيه أكل حتى أنا حركتي كانت صعبة جدا جدا وكنت مريض يعني فعرضوني إلى القاضي واتكفلت بي واحدة اسمها أنا فأنا من الآن إنه من المنبر ده بقول لها إنه شكرا وبرسل لها رسالة بقول لها شكرا جزيلا جدا وشكرا جزيلا للمنظمه بتاعت الشابيل ديبو كلها فهي السبب اللي خلتني انه انا اخرج والحمد لله اخذت الاقامه الان بعد ما خرجت عملت استئناف في طعن في قرار بتاع الاوبرا والاوبرا قبلت فالان انه اخذت الاقامه وانا سعيد جدا جدا مع اصدقائي وصديقاتي هنا في فرنسا.
Et pour finir, donc la fin de cette histoire, c'est que après avoir été transféré à Bobigny, j'ai été enfermé dans un commissariat puis dans un dépôt pendant 3 jours où j'ai eu ni à boire ni à manger. On m'a réveillé en me marchant dessus puisque je n'arrivais plus à bouger. J'ai été emmené au tribunal de Bobigny où les gens de la Chapelle Debout m'ont fait des garanties de représentation qui m'ont permis de sortir. Et puis mes démarches ont continué. J'ai eu la chance d'être reconvoqué à l'OFPRA par la suite. Et j'ai obtenu mon titre de réfugié. C'est pour ça que une partie de ces gens-là sont mes amis et que je m'organise aujourd'hui.
في السجن بتاع الترحيل الشرطة بتتعامل بغساوة جدا جدا. في أشخاص بيكونوا مريضين وما بياخدهم إلى المشفى. فبيجيبوا لهم دكتورة من داخل السجن بتاع الترحيل. فدي رسالة أنا بوصلها لكم. أنتوا لازم تزوروا السجون بتاع الترحيل. وتعاينوا بأنفسكم تشوفوا إنه اللي بيحصل داخل السجون في أشخاص بيجون مرض نفسي حتى ما بيقدروا بيتكلموا مع البوليس في أشخاص ما بيأكلوا بيكونوا مرضانين جدا جدا فالشخص لما يتعب شديد جدا جدا كده ده الشرطة هو عايز الطريقة ده عشان يرحل الشخص بطريقة سهلة جدا ما بيقدر بقاوم.
Et donc j'ai vraiment un message. J'ai vraiment un message à faire passer aux gens en disant c'est très très important d'aller rendre visite aux personnes en centre de rétention. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont vieux. Il parlait de quelqu'un de 75 ans enfermé à Vincennes. Il y a des gens qui sont particulièrement en souffrance et qui ont besoin d'être vus pour pas rester tout seul. Merci à vous.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de RSF sur fréquence Paris Purlel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et donc, on vient d'écouter Oussam et Nadjoudim de la Chapelle Debout, enregistrés lors de la réunion publique de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers le 15 avril dernier. Et on devrait tout de suite retrouver Anne-Marie Desfous qui va nous parler d'un jeune qui passait au tribunal devant le JLD aujourd'hui, qui a été... je crois qu'Anne-Marie est en ligne. Allô Anne-Marie ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Anne-Marie, comment vas-tu ?
Ça va bien, merci.
Voilà, donc tu vas nous parler tout de suite de Steve Cardorel Milandou, hein, qui passait devant le JLD tout à l'heure, qui a été arrêté à la préfecture alors qu'il venait pour déposer son dossier de régularisation.
Exactement, oui. Et donc il venait accompagné de sa mère, de nationalité française, et il venait avec son passeport qui a été considéré par la préfecture comme un faux passeport. Donc c'est la raison qui a été donnée pour son arrestation et sa mise en rétention. Et donc il est passé au JLD, il est arrêté hier. On a été prévenu, nous RESF, on ne le connaissait pas, hein, donc on a été prévenu par l'action sociale du lycée. Et donc nous étions quelques-unes de RESF et deux enseignants. Et donc sa mère avait mobilisé deux avocates. Et donc il a été libéré. Alors il peut y avoir un appel encore de la préfecture, mais il a été libéré sur Allô. Ah oui, pardon.
Oui.
Donc il a été libéré surtout sur deux fondements, enfin sur deux arguments, que le juge a dicté devant nous après une plaidoirie des deux avocates de presque une heure. Enfin, j'avais jamais vu ça au JLD, mais bon, et qui montrait l'aberration de la situation. Mmh. Et donc le juge a considéré d'une part que il n'y avait pas eu d'expertise de son passeport, donc on ne pouvait pas considérer qu'il était faux. Et que d'autre part, il y avait eu une formule toujours employée dans ce cas-là, la formule « je la cherche ». Enfin bon, que le préfet, la préfecture s'était royalement trompée dans cette affaire, puisque elle n'avait pas tenu compte de la vie privée familiale du jeune, qui vit donc avec sa mère, sa sœur, etc. Et le juge a même encouragé le jeune à faire une demande de naturalisation prochainement.
Ouais. Voilà. Surtout que c'est tout à fait surprenant pour un gamin qui est fils de parents français, donc...
Oui. Enfin, de mère française, puisque bon, le père est resté au Congo, mais il a pas de contact avec le père, donc la mère est française, oui, la sœur, et donc c'était vraiment tout à fait aberrant. Bon, le problème, c'est que c'est la deuxième fois que ça nous arrive en peu de temps, dans le 13e, c'est qu'on a une arrestation au guichet de la préfecture. À cause du passeport qui est remis en cause. Mais bon, là, il a bien été... Bon, ça a été plaidé par les avocates qu'il n'y avait pas eu, en plus, pendant la garde à vue et en rétention, pas eu de recherche d'expertise du passeport. En plus, ils n'ont pas fait de recherche, donc c'était considéré comme une erreur d'appréciation. Du préfet.
Ok. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Marie. Peut-être tu as une chose à ajouter et puis.
Oui. J'ai une chose à ajouter parce que, en fait, c'est pas fini parce que le jeune, du coup, il a une OQTF, une obligation de quitter le territoire.
Ouais.
Donc, la semaine prochaine, il va y avoir le passage de ce jeune au tribunal administratif. Donc, nous referons un appel à venir le soutenir.
Ok. Eh bien, on relayera cet appel. Hein. Tu l'envoies et puis on en parlera. Si c'est avant mercredi. Eh bien, on en parlera dans l'émission L'Agenda entre midi et midi et demi. Et puis, sinon, on en reparlera dans cette émission.
D'accord, très bien, merci.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir, Anne-Marie, et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà, donc, on était en direct avec Anne-Marie Desfous, du RESF 75, qui nous parlait donc d'un gamin arrêté à la préfecture et finalement libéré par le JLD. Et on va tout de suite passer à un autre agenda qui est très très court, hein, parce que je vois déjà que les oreilles loin du front, excellente émission, commencent à s'installer dans le studio. Donc, il y aura un rassemblement le 27 juin, autrement dit demain à 20h, devant la mairie du Kremlin-Bicêtre, parce qu'on avait déjà parlé de la façon dont la mairie avait empêché RESF de maintenir ses permanences, avait repris la clé à RESF de la maison des associations. Donc RESF a gagné. La préfecture a rendu ses clés, mais avec un avis qui est tout à fait surprenant. Et puis, donc toujours jeudi 27 juin, mais là, cette fois-ci, c'est à 20h, la section de la Ligue des droits de l'homme, Paris 14e, 6e, propose une projection suivie d'un débat. Donc c'est à 20h, au cinéma Les Sept Parnassiens. Et le film, c'est Le Bon Grain et l'Ivraie. C'est un documentaire de Manuela Frécil. Donc c'est la vie des demandeurs d'asile à hauteur d'enfant. Voilà, et bien notre émission est à présent terminée. Merci Ludmila à la technique. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission RESF. Au revoir.
TF, obligation à quitter le territoire français.
Attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, réseau éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.